Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
Et Paris sera toujours Paris, manifestement, aux yeux des investisseurs mondiaux, des investisseurs en tout cas les plus fortunés. Richard Zipine vient de nous rejoindre, directeur général de Barnes. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business. On va parler des villes les plus prisées par les plus fortunés. Vous venez de publier le GPH, le Global Property Handbook. De quoi s'agit-il ?
Alors le Barnes Global Property Handbook, c'est une étude que nous publions chaque année depuis 6 ans maintenant et qui nous permet d'analyser le comportement des ultra-riches, qu'on appelle les ultra-high net worth individuals, dans le monde, leur comportement, mode de vie et surtout dans un souci d'analyser leur acquisition immobilière. Voilà.
Les critères ?
Alors, il y a 3 critères qui reviennent régulièrement, qui sont, lorsqu'ils achètent un bien, il y a le critère émotion, qui correspond à ce dont ils rêvent. Il y a le critère praticité, qui correspond sans aucun doute aux endroits dont ils ont besoin, enfin, où ils ont besoin d'acheter pour vivre proche, sans doute, de leur entreprise. Et puis, il y a aussi les écoles pour leurs enfants, enfin, tout ce qui est pratique. Et puis, vous avez le 3e critère qui prend de l'importance, de plus en plus d'importance, qui est le critère de rentabilité financière, on va dire, rentabilité de leur acquisition.
Et donc, quand on regarde les résultats, qu'est-ce qui ressort ? Quelles grandes leçons peut-on tirer de ce baromètre que vous avez publié il y a quelques jours à peine ?
Il y a 2 points qui ressortent. D'abord, la baisse du nombre d'ultra-riches, qui baisse pour la première fois depuis des années, de 6% cette année. Alors, je pense que c'est un épiphénomène. Je pense que c'est lié à peut-être à le domaine d'activité de l'IT qui a souffert et de la crise, évidemment, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et je suis certain que sur le fond, le nombre d'ultra-riches continuera à progresser, évidemment, dans les années qui viennent. Ça, c'est le premier point.
Évidemment, parce que les technologies, les nouvelles technologies, parce que la Chine, parce que les émergents.
Oui, puisqu'on voit ce gap très clair qui se crée entre les ultra-riches et le reste de la population. Leurs entreprises prennent la valeur et ça ne cesse de continuer. Le deuxième point qui est intéressant, qui est peut-être un peu plus qualitatif, c'est lorsqu'on reprend le critère de la finance et surtout de la rentabilité de leurs acquisitions, ça correspond à un état d'esprit qui évolue chez eux, qui est l'état d'esprit des entrepreneurs. C'est-à-dire que 75% des ultra-riches sont des entrepreneurs, sont des gens qui ont créé leur fortune sur leur génération, éventuellement sur une 2e génération. Ils ont récupéré l'entreprise de leurs parents pour ensuite la faire fructifier. Donc ça, c'est important. 75% sont des entrepreneurs et ils réagissent et ils investissent comme des entrepreneurs. C'est-à-dire que dans un souci de transmission, certainement, mais aussi et surtout dans un souci de rentabilité. Donc, il y a une génération, vous aviez de l'argent, vous achetiez une résidence secondaire ou plusieurs, vous l'utilisiez 1 mois par an, et c'était tout. Aujourd'hui, au moins, vous achetez un bien en résidence secondaire à la montagne ou à la mer, et vous le mettez, d'abord, vous y mettez des prestations haut de gamme, et vous le louez. Et vous le louez de façon intéressante, de telle sorte que ce soit rentable. En plus, ça vous permet de l'entretenir beaucoup mieux que si vous n'y alliez pas. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, vous avez ceux qui allient immobilier et passion. Il y en a qui aiment la chasse, il y en a qui aiment
le
vignoble, qui aiment le cheval, enfin, qui aiment plein de choses. Et qui,
c'est cliché, mais c'est vrai.
Voilà, c'est ça. Et qui, alors celui qui aime le vin, il va acheter un vignoble. Il va acheter un vignoble et puis il va le rentabiliser, il va le développer, il va racheter d'autres vignes aux alentours et puis il va créer un centre d'hospitality, un restaurant, il va accueillir, il va le rentabiliser. Celui qui aime la chasse, et chez Barnes, on vend 10 de chasses par an, très souvent, évidemment, en Sologne. Mais de temps en temps, vous avez un entrepreneur qui vient nous voir, qui dit, voilà, je viens de vendre mon entreprise quelques centaines de millions, je suis chasseur, je veux une chasse, et je vais la rentabiliser parce que je vais la louer. Et donc, exceptionnellement, l'année dernière, on a vendu une chasse en Namibie de quelques milliers d'hectares à un entrepreneur français qui, évidemment, a pris beaucoup de plaisir à l'acheter et surtout à la rentabiliser. Donc voilà, dans tous les domaines plus ou moins liés à l'immobilier, vous avez des passions qu'ils peuvent rentabiliser.
Et quand on mélange tout cela et qu'on regarde les résultats de cet observatoire, ce baromètre que vous proposez chaque année, hein, chez Barnes,
absolument.
Quelle ville du monde attire le plus les plus grandes fortunes.
Alors, chaque année, on sort le palmarès des 50 villes qui attirent le plus. Et cette année, nous avons 5 villes qui ressortent. Donc, je vais commencer par la 5e pour terminer par la 1ère. Donc, la 5e, c'est Dubaï, qui est une ville, d'abord, qui était très ouverte pendant le Covid, donc qui a permis à beaucoup d'entrepreneurs de venir s'installer et évidemment à certains Russes. Et aujourd'hui, une grande majorité des habitants de Dubaï sont des entrepreneurs. Donc, c'est une ville qui a été dynamisée grâce à cela. Vous avez ensuite 3 villes américaines, New York, Miami et Austin, qui sont plutôt à connotation républicaine, et qui ont été plus souples, on va dire, pendant le Covid, et donc ont permis aussi d'attirer beaucoup d'entrepreneurs qui voulaient continuer à travailler, et ça les a dynamisés.
Alors, Miami, on est moyennement surpris, parce qu'il y a soleil, il y a tout le mythe autour de Miami. Austin, on peut être davantage surpris. Vous dites, c'est sans doute par la gestion des républicains pendant la crise Covid qui a renforcé l'attractivité économique de cette ville d'Austin, parce qu'on pouvait continuer d'y entreprendre et d'y travailler.
Absolument. Entre autres, c'était tout à fait le facteur majeur. Et puis le numéro 1, c'est Paris. Paris qui sort pour la première fois depuis des années en numéro 1 du palmarès des villes qui attire le plus d'ultra-riches. Les ultra-riches, je fais une petite parenthèse, ce sont ceux qui ont au moins 30 millions de dollars d'épargne. Donc c'est vraiment des ultra-riches. Donc Paris attire ces gens-là aujourd'hui. D'abord, ça a été la ville report du Brexit. Il y a 2 ans, on a eu beaucoup de dirigeants et financiers qui sont venus de Londres. Et puis aujourd'hui, Paris, c'est aussi une ville qui continue à charmer. Je fais un clin d'œil avec cette série Netflix et Emily in Paris. Et je pense que c'est symbolique, même si ça reste peu significatif. C'est quelque chose de symbolique. Et puis, c'est une ville qui est épouvantable pour les automobilistes depuis des années, mais qui finalement se rénove d'une façon assez intéressante, avec des petits villages, des petites vies de quartier qui émergent par-ci par-là et qui font de Paris, dans tous ses arrondissements, c'est une étude en plus qu'on a sortie en septembre du 22, dans tous ces arrondissements, on retrouve de l'immobilier de grande qualité.
Ah bon ?
Et les Parisiens et les étrangers s'y intéressent.
Mais attendez, ne me dites pas que les plus grandes fortunes s'intéressent à tous les arrondissements de Paris. Ils s'intéressent au centre. Ils ne vont pas aller dans le 13e arrondissement, dans le 20e. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que ce sont de nouvelles tendances quand même.
Globalement, les grosses fortunes s'intéressent toujours au 16e Nord, au 8e, au Marais. Beaucoup, beaucoup le Marais depuis un an et demi, à la rive gauche, etc. Mais nous avons une jeune clientèle de jeunes entrepreneurs high-tech qui s'intéressent au 11e, qui s'intéressent au 10e, qui sont des nouveaux arrondissements et qui attirent cette clientèle assez fortunée, malgré tout.
Quel est le palmarès, justement, des nationalités qui achètent le plus à Paris aujourd'hui dans cet univers des grandes fortunes ? Barnes, vous avez un spectre large de clients, justement, dans cet univers des plus grandes fortunes. Quelles sont les nationalités les plus représentées ?
Alors, je faisais cette analyse récemment. On a vraiment toutes nationalités. Il n'y a pas une nationalité qui ressort en particulier, sinon que l'année dernière, vous avez évidemment beaucoup, beaucoup d'Américains qui sont venus en grande partie grâce à la parité euro-dollar qui leur était extrêmement favorable. Et donc, par exemple, un secteur très prisé par les étrangers qui est le 16e Nord, Trocadéro, la moitié, je dirais, des étrangers, c'était des Américains, un tiers, on va dire plutôt, pardon, et un bon quart, c'était des Libanais. Et ensuite, vous avez quelques pays de l'Est qui, sans doute, souhaitaient sécuriser leurs investissements, des Géorgiens, des Kazakhs. Mm-hmm. Voilà. Puis après, vous avez toujours les Italiens, les Suisses, les Belges qui sont présents en permanence.
Et la Airbnbisation du monde, l'usage plutôt que la quête de propriété, c'est une tendance montante. Est-ce que ça transforme aussi la façon dont les grandes fortunes internationales considèrent l'immobilier parisien ?
En fait, je fais le rapprochement avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le client extrêmement riche va acquérir un bien de plusieurs millions d'euros à la montagne, par exemple, Megève, Gstaad, etc. Même si c'est un bien de 7-10 millions d'euros, voire plus, il va le louer. Il va le louer pas n'importe comment, il va le confier à une société, en l'occurrence Barnes, Seasonal Rentals, développe beaucoup son activité là-dessus, et il va le louer avec des prestations, avec des services qui font que ce sera rentabilisé. Donc c'est une espèce de Airbnbisation de la clientèle très aisée.
Bon, et donc ils achètent la transformation de Paris menée par la municipalité actuelle. C'est ce que vous nous apprenez. Parce que les Parisiens ont tendance à penser que la qualité à Paris, la qualité de vie est en train de se dégrader, les embouteillages, les travaux partout, plus ou moins bien, les réalisations même végétales plus ou moins bien faites. Bon, d'un goût parfois contestable, mais voilà, c'est les goûts, les couleurs. Vous dites que les grandes fortunes, ça ne les bloque pas du tout.
Pas du tout. Ils sont toujours là et de plus en plus. Après, on peut évidemment juger de la façon dont c'est fait. En tous les cas, l'objectif peut être positif.
Richard Zipin avec nous aujourd'hui, directeur général de Barnes. Merci beaucoup.
Merci.
Vous êtes passé nous voir sur le plateau de BFM Business et donc le Barnes Global Property Handbook qu'on peut bien sûr consulter. Très, toujours très, très intéressant. Bon retour.